Pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue, vous êtes dans Page après page. Pour cette rentrée, je rencontre un nouvel auteur, bien de chez nous, puisqu'il s'agit d'un Lacognier d'adoption en Volvestre. Retraité de la fonction publique, je reçois Jean-Claude, qui va nous parler de deux chroniques aux éditions Sidney Laurent. C'est Jean-Claude Boyer donc. Notre auteur est un Pyrénéen dans l'âme. Bonjour Jean-Claude Boyer.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Georges Brassens. Qu'est-ce qui a guidé votre choix ? C'est votre vie peut-être ?
Sûrement, oui. C'est parce que c'est quelqu'un que j'ai adoré quand j'étais jeune. Alors qu'à mon âge, les gens préféraient les yéyés. Et moi, j'aimais bien ce genre-là parce que j'ai toujours été plutôt littéraire. À partir de là, j'aimais que les paroles ressemblent à quelque chose plutôt qu'écouter du bruit pour le plaisir d'écouter du bruit.
Oh, je suis heureuse de vous entendre dire ça. J'ai un petit peu ces idées aussi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire des chroniques et non un roman dans le domaine que vous avez choisi ?
J'écris des chroniques parce que j'ai pas l'intention, et peut-être des fois ça me tente d'écrire un roman, mais je n'écris pas des choses que j'invente. Je n'écris que des choses qui ont été réelles ou réalisées. Et c'est pour ça que j'écris sur la pêche, la chasse, le tennis, le rugby, ainsi de suite. Donc j'ai plusieurs bouquins et plusieurs, comment on dit, flèches à mon arc à tirer. Bon, et j'en aurai d'autres encore puisque je continue. Mais si vous voulez, ce ne sont pas des inventions. Ce ne sont que des faits réels, des faits que j'ai vécus et que par contre je raconte tous avec plus ou moins de poésie et surtout avec beaucoup d'humour parce que c'est ce qui m'intéresse le plus.
Ah oui,
voilà.
C'est vrai que j'ai bien ri quand j'ai lu vos chroniques. J'ai la chance de vous connaître très peu, c'est vrai, mais vous avez beaucoup d'humour justement et ça, d'où ça vient ?
Ben, ça vient peut-être de mon enfance qui a été relativement difficile parce qu'on a vécu dans des époques dures avec des parents qui travaillaient très dur, qui eux-mêmes n'avaient jamais été pratiquement à l'école ou très 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 peu, quoi, qui n'avaient même pas le certificat d'études ni rien. Mon père ne parlait pratiquement jamais. Tout ce qu'il savait faire, c'est de temps à autre nous mettre une torgnole, comme on disait à l'époque, parce qu'on n'avait pas été très sages ou qu'on avait fait tomber un couteau à table ou une fourchette. Et ma mère était plus volubile, nous parlait, mais avec sa façon de parler à elle, qui était autrefois. Et avec mes grands-parents, avec lesquels ils ont travaillé en fin de vie, puisqu'ils avaient une épargne à Montrégio, qu'avaient mes grands-parents et qui ont repris ma mère, parce que mon père a travaillé dans les carrières, mais il est venu l'aider, il a abandonné son travail de routier. Ils ont repris cette épargne, on vivait, on mangeait ensemble. Moi, j'allais à l'école à Montrégio à l'époque, il y avait un séminaire qui m'a permis d'arriver jusqu'en troisième avant de partir au lycée ensuite, puisqu'après j'ai continué de longues études pendant des années. Si vous voulez, à partir de là, l'intérêt que l'on avait quand on était en famille, c'était de se faire plaisir, c'est-à-dire d'essayer de mettre un côté jovial à une discussion qui n'existait pas du tout, qu'il fallait même la générer totalement.
D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous allez nous présenter deux de vos livrets, parce qu'il y en a plusieurs. Le premier, ce sera Marron, les chroniques humoristiques d'un village pyrénéen. C'est aux éditions Sidney Laurent. Vous dites d'un village, j'ai envie de dire un quartier. Et pourtant, vous parlez de la commune en entier. Comme quoi, il y a toujours à dire autour de soi. Est-ce qu'il vous a fallu sonder vos voisins pour pouvoir étoffer ce récit ?
Ah non, non, pas du tout, du tout. J'ai vécu plusieurs années avant d'écrire ce bouquin.
Oui.
Et j'ai appris à connaître non seulement les gens qui étaient proches de moi, mes voisins, même si ce n'est pas la ville, c'est-à-dire qu'on n'est pas proches, les maisons ne se touchent pas, on a de la place, on est loin les uns des autres, par le biais des fêtes, de certaines réunions dans lesquelles je me suis mêlé parce que j'aime bien ça. On m'a proposé même de m'occuper aussi de la vie intégrante de la ville, en étant au conseil municipal, tout ça. Bon, mais ça, tant que j'ai eu travaillé, ce n'était pas mon choix. Et puis maintenant, ça me gêne un peu parce que je trouve que souvent, quand on le fait, c'est pour se donner une certaine valeur. Et moi, ce n'est pas mon cas. Ça serait le contraire. Si je voulais faire quelque chose, ce serait plutôt pour valoriser la chose que pour me valoriser moi. Et or, malheureusement, la plupart des gens qui ont ce genre de fonction, si on pourrait dire, sont des gens qui font le contraire.
D'accord. Ils
veulent être là pour qu'on dise, tiens, c'est monsieur le maire. Voilà.
Oui.
Alors que, bon, si vous voulez, c'est le contraire. Par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce genre de choses, c'est tout ce qui est convivial. C'est-à-dire que le reste ne m'intéresse pas. Si vous voulez organiser un enterrement, malheureusement, ça arrive, il faut le faire, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire, et on est obligé de les faire quand même. Le plus important dans la vie, c'est d'essayer de les faire passer, de la faire passer le mieux possible.
Oui, et ça, vous y réussissez bien. Comment est-ce que vous est venue l'idée de faire parler Marou, votre chien donc, et de lui faire narrer la vie de ses maîtres à travers ses yeux ?
En fait, c'est pas vraiment à travers ses yeux, c'est lui qui m'a parlé.
D'accord.
Je savais pas qui parlait, j'étais vraiment pas au courant. Et puis, à force de le regarder dans les yeux, un jour, il a dit « Mais Coco, tu déconnes, je peux parler si je veux. » Alors, j'ai dit « Si tu peux parler, tu peux écrire. » Il m'a dit « Non, regarde, j'ai pas de mains, j'ai que des pattes. » Alors, j'ai dit « Bah, c'est pas grave ça, je vais t'apprendre à écrire avec les pattes. » Il m'a dit « Non, ce que je vais faire, je vais te raconter des histoires et toi, tu les écriras. »
Oui.
C'est la solution.
D'accord, donc c'est vraiment un gros deal que vous avez fait avec Marou.
Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, il est toujours avec moi et je suis en train d'écrire Marou, c'est le livre dont nous parlons maintenant. Et je fais deux livres, un qui sort d'ici un mois, qui est la suite de Marou. Oui. Donc, il sera Marou traite de ma retraite, puisqu'il a démarré en même temps que le Covid est arrivé,
oui.
Et avec ma retraite, à 15 jours près. Celui-là, il est fini, il sortira dans un mois. Et je suis en train d'écrire un autre qui va s'appeler Marou se la pète.
D'accord.
Parce que ça fait Maroupette et ainsi de suite. Oui. C'est que des jeux de mots.
L'épisode chouette de votre livre Marou, vous pensiez vraiment qu'il pouvait y avoir un fantôme nocturne pour vous faire peur dans cette maison que vous veniez d'acheter ?
Eh bien, je dois dire que oui. Oui, totalement. Parce que j'ai été habitué à ça. J'habitais dans une très vieille maison qui était au-dessus de l'épargne de mes parents, qui était sur la place Valentin Abeille à Montrégeau. Et dans cette maison, qui faisait 4 étages, et nous, on habitait le rez-de-chaussée plus les chambres au premier étage, et une chambre au troisième, et ensuite on avait des voisins en haut. Ces voisins, c'était des petits vieux qui faisaient beaucoup de bruit et compagnie, et on avait une cage d'escalier, c'était comme un puits de jour énorme, et c'est vrai qu'on entendait des bruits bizarres et compagnie. Alors quand on a été gosse, on avait du mal à comprendre que ces bruits-là soient naturels, c'est-à-dire que ce soit du bois qui craque, parce que c'était des vieilles maisons,
oui.
D'un quartier, qu'il y ait des chouettes, j'en ai vu plusieurs fois, qu'il y ait des oiseaux qui soient rentrés par les tuiles, ainsi de suite.
Oui.
Que nous, dans notre imaginaire d'enfant, on pensait plutôt à quelqu'un qu'on risquait de rencontrer dans ces fameux escaliers en bois, vétustes, et qui pouvait nous faire peur. On l'imaginait sans le voir, et tellement on l'imaginait, des fois, on croyait l'avoir vu.
Oui, oui, oui. Ouais. Là, cette chouette est venue perturber un peu vos premières nuits à Marou.
Ah oui, totalement. Oui, oui, parce qu'elle était dans les combles de cette vieille maison que nous avons achetée ici, puisqu'avant nous étions à Toulouse dans une villa toute neuve qu'on avait fait construire. Bon, moi j'en ai eu marre de la vie citadine. Je travaillais encore, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je suis à la retraite. Je n'avais pas de problème pour faire le chemin, puisque j'avais une voiture de fonction et tout. Pas de problème d'horaire, puisque je ne suis pas dormeur, je ne dors pas du tout, pratiquement jamais. À partir de là, on a voulu revenir, faire un retour à la campagne, revenir à une vie qui pour nous était la vraie vie, plutôt que celle de la vie toulousaine, où au début, quand on avait fait construire notre maison, on était à peu près les seuls sur un terrain où on pouvait balader les chiens et compagnie, alors que là, maintenant, on était serrés les uns contre les autres, avec des gens qui faisaient une gueule pas possible. Bon, il y en avait des gentils, à travers, évidemment, comme partout.
Oui.
Mais il y en a qui disaient ni bonjour, ni au revoir, ni merde, je dois le dire, je suis obligé. Voilà.
Après la chouette, vous relatez, enfin, Marou relate les repas de quartier.
Oui.
Et ça, c'était quelque chose dans ce quartier de Palatin. C'est vrai que ça perdure malgré... Bon, là, il y a eu les épisodes Covid. Malheureusement, ça, il y a eu une coupure, mais je suis sûre que ça va reprendre. Est-ce que c'est important aussi pour justement un village, pour garder cette convivialité entre les gens et préserver justement ces moments de quartier, de village, dans le village presque, j'ai envie de dire.
Mais, c'est-à-dire que si on habitait en plein centre-ville, peut-être que ce ne serait pas la même chose. Parce qu'il y a un petit centre-ville, même si le village est relativement petit.
Oui.
Donc, la fête du village peut suffire pour avoir ce côté-là.
Oui.
Mais quand on est très excentré, on habite quand même à pratiquement entre 3 et 5 kilomètres du centre-ville.
Oui.
Et c'est un quartier où il y a quand même des fermes, des vieilles fermes, donc avec des gens très sympathiques, très intelligents, même si certains ne sont pas du tout cultivés ni rien, mais ça n'a absolument rien à voir. L'intelligence et la culture sont de choses totalement différentes. Donc à partir de là, quand on est arrivé, au bout de quelques temps, dès qu'on a connu ces gens-là, on a eu envie de les connaître plus et de vivre un peu leur histoire et de vivre avec eux, de vivre notre histoire comme si notre histoire était dépendante de la leur et vice-versa.
Oui. Et alors, vous avez dû vous amuser parce que quand vous avez relaté justement ce repas de quartier dans le quartier de Palatin de la Cogne, vous avez eu une façon de faire parler les médias. C'est quand même, comment dire, qui vous a un peu travaillé parce que faut aller les chercher les médias, même si vous avez parlé de Radio Galaxie, médias locaux.
Oui, oui, oui. Non, mais
ça vous avez fait parler aussi des médias parisiens, du quartier de la Cogne, il faut le faire.
Ben oui, pourquoi pas, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'on parle que des événements qui sont à Paris, parce que la radio est à Paris. En plus, Paris, c'est la capitale de la France, mais ça ne veut pas dire que, justement, elle ne doit pas s'occuper de la France. Au contraire, c'est la capitale de la France. Ce n'est pas la capitale Paris, point la ligne. Voilà. Donc, à partir de là, je pense qu'il est très important que les plus petits événements qui se passent dans nos campagnes soient relatés autant en ville qu'à la campagne.
Oui.
Et qu'ils aient une importance, même si elle n'est pas d'une importance monstrueuse, mais qu'ils aient quand même une importance quelconque, que ça ressemble à quelque chose.
Voilà. Vous avez fait vraiment ces recherches pour dire que Palatin, le quartier de Palatin, était de racine latine ?
Oui, totalement. Oui. Non, parce que je ne connaissais pas du tout. Bon, après, j'ai fait du latin, j'en ai fait beaucoup, parce que j'ai fait, enfin beaucoup, façon de parler. J'ai fait du latin jusqu'en troisième, voilà. Mais après, j'ai abandonné, puisque j'ai continué mes études dans des études plus classiques, parce que je faisais en même temps le professorat de gym, quoi, la préparation au professorat de gym, que j'ai continué après le bac. Hein. Mais disons que le latin était quelque chose qui, pour moi, m'a interpellé énormément. Et pas que le latin, la vie qui dépendait de cette époque-là. C'est-à-dire tout ce qui se passait à l'époque où les gens, les Romains et tout, voilà, étaient en France et compagnie. Bon, tout ça, ça a été des histoires qui, pour moi, étaient des histoires imaginaires qui avaient été bien réelles. Tandis que quand on regarde Ferdinand sur la Dépêche, c'est très bien, mais Ferdinand, on sait très bien que ce n'est que du faux, quoi. C'est tout. À part qu'il arrive des fois des couillonnades, comme on dit, qui ressemblent à ce qui arrive à Ferdinand.
Mm-hmm.
Mais le reste, c'est vraiment relater des choses véridiques. C'est pour ça que le latin, pour moi, a eu de l'importance, non seulement à cause de l'histoire, mais aussi parce que le latin, c'est quand même la racine première du français.
Mmh. Alors, vous avez mis un petit épisode de chasse, et là, Marot a dû jubiler. Ou en tout cas, il a dû vous souffler le récit tel que lui le voyait.
Totalement. D'ailleurs, comme je vous dis, c'est lui qui l'a écrit, c'est pas moi. Hein. Moi, j'aurais fait plein de fautes, alors, donc je fais attention. Lui, il a un coup de patte terrible.
D'accord. Un tigre ou une panthère à la Cogne, ça c'était vraiment l'événement il y a déjà quelques années d'ailleurs.
Oui.
Votre village est pire que le village gaulois résistant. Avez-vous du sérieux à nous dire sur cet épisode tigre ou panthère, ou bien vous connaissant un petit peu, comment s'est montée cette cabale ?
Non, tout ce que j'écris c'est que du sérieux. Et là, je suis très sérieux, même si je souris un peu.
Mais enfin, quand même, ce n'était pas vraiment une panthère. Comment ça s'est fait ?
On le sait pas. C'est un bruit qui a couru. Donc, vous savez, les bruits qui courent, c'est très intéressant. Des fois, c'est un peu idiot. Mais des fois, ça peut être intéressant si on les relate comme je fais moi, c'est-à-dire avec fantaisie. Si on les relate pour faire peur aux gens et les effrayer, leur dire « sortez pas le soir, il y a une panthère dans les rues », c'est ridicule. Par contre, si on raconte des bêtises, comme je vais dire, à partir de là, c'est pas la même chose.
Quoi. Et pourtant, ça a défrayé les chroniques.
Oui, totalement. Oui.
Mm-hmm. Vous parlez également, bien sûr, de la fête du village. C'est un moment incontournable pour chaque village, d'ailleurs, ici en tout cas. Comment se fait-il qu'il y ait toujours cette convivialité à la Cogne ? Parce que ça n'a pas changé.
Ben, ça n'a pas changé parce qu'il y a un groupe qui s'est formé, et qui est un groupe intéressant et qui a su évoluer sans cesse. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté vieillot complètement. Même si les âges passent, continuent, on ne peut rien y faire, ça c'est la vie.
Mmh.
Mais malgré tout, on garde cette envie première qui est avant tout de divertir, quoi. On ne fait pas une fête au village comme on faisait dans certains villages, juste pour la faire. C'est-à-dire pour dire, tiens, on l'a faite, c'est fait. Et en fait, nous, c'est le contraire. Quand elle finit, on est déçu, pas parce qu'elle a été faite, mais parce qu'elle est finie. Voilà.
Oui.
Et donc, il nous tarde l'année après. Bon, après, on se dit, l'année après, ça fera un an de plus, et là, malgré tout, on le paye.
Oui. Alors, dans ce premier livre que l'on relate ici, dans Marot, vous parlez du café chez Olga. C'est un lieu original, tout comme la Saint-Jean d'ailleurs. C'est un hommage à cette personne qui malheureusement n'est plus de ce monde depuis un bon bout de temps maintenant.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivé là. C'est relativement simple. Nous habitions, comme je disais, à Toulouse, vers Saint-Cyprien, dans une villa. Et quand nous en avons eu marre de la circulation et compagnie de Toulouse, alors que moi je roulais toute la journée, j'allais de chantier en chantier, ça faisait partie de mon boulot.
Hein. Oui.
Et à partir de là, on a eu assez de ce bruit, on avait les avions qui passaient sur notre maison de plus en plus près, des maisons qui venaient s'installer de plus en plus près. On a dit on va s'excentrer. Et moi j'ai été habitué à vivre à la campagne, puisque mon région, malgré tout, oui, même si ça avait été une grosse petite ville, on pourrait dire.
Oui. En tout cas, plus gros que la Cogne.
Ah, beaucoup plus gros. Il y a eu, à l'époque où je suis né, il y avait à peu près 5000 habitants.
Ah oui, quand même.
C'était costaud, quoi. On n'est jamais arrivé, mais pas loin, oui, 4900. Voilà. Enfin, toujours est-il que, si vous voulez, on a voulu s'excentrer. Bon, d'une part parce que j'en avais les moyens, puisque je pouvais faire les allers-retours avec une voiture de fonction. Mm-hmm. Donc, il y avait ce côté-là qui était très intéressant. Et pour justement vivre une vie qui nous plaisait beaucoup plus que la vie citadine pure. On s'excentrait à la Cogne. Et pourquoi à la Cogne ? Parce que, en cherchant dans le coin des maisons, de partout, on s'est arrêté dans ce café qu'on n'avait même pas vu en passant dans un sens. Et oui, là, on dit, lui, il y a un café là. On s'arrêtait là. On a trouvé ça tellement extraordinaire, un vieux café comme ça, presque fermé. On aurait dit, il y avait quatre petits vieux qui jouaient à la belote dans un coin. Personne au bar. On s'est mis au bar. On a discuté avec cette fameuse Olga qui a été très, très sympa et qui nous a donné énormément, énormément envie de rester dans ce village. Donc on a dit, si on pouvait trouver par là, ce serait bien. On aura même un café. J'ai eu, moi, une vie énormément avec les cafés. Moi, en tant que sportif, j'ai fait du rugby. Le rugby, ça se finissait tout le temps dans les cafés, dans les bars, dans les boîtes de nuit, après, même après, sur Toulouse. Mais après, le reste du temps, c'est pareil. À Montrégio, à part qu'il y avait 22 cafés, je crois, à Montrégio, donc on faisait le tour, une espèce de tour de France, mais qui était un tour des cafés, voilà, pour la fête locale, voilà. Donc oui, on faisait tous les cafés l'un après l'autre, voilà, en buvant à chaque fois au moins une tournée à chaque café.
Bien sûr.
Ce qui était déjà pas mal de choses quand on sait qu'il y en avait 22 quand même, tournées à boire.
Oui. Voilà, donc le café chez Olga, c'était vraiment l'entité de la Cogne.
Ah oui, et c'était l'entité, et c'est ce qui nous a fait rester. Et ça, je vous l'assure, c'est vraiment ça. Hein.
Ah, mais je vous
crois. Il n'y aurait pas eu de café sur la place, je pense qu'on aurait encore cherché ailleurs une autre maison.
Oui.
Parce que cette maison était excentrée, elle nous plaisait sans nous plaire vraiment. On aurait continué, et puis on est tombé dans ce café, et cette place devant qui était sympa, on a eu un coup de cœur.
Oui, oui,
on
oui.
On ne peut pas dire autrement.
Je peux le comprendre, voilà. Comprendre. La Cogne ne fait pas les choses à demi. Après la panthère, il y a eu un monstre, le Loch Bernie, l'avez appelé.
Oui, oui.
C'est encore une chronique de l'histoire ou pas ?
C'est relativement simple parce que c'est presque vrai aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que comme je suis chasseur-pêcheur, je passais auprès d'un lac qui est un copain à nous, qui habite pas très loin, mais pas pour pêcher parce que je pêche que des rivières de haute montagne. En temps normal, je pêche à la Cueillère, des tout petits ruisseaux qui sont justement au-dessus de mon réseau et par là-bas. Je ne pêche pas la Garonne ici, ni rien, tout ça, c'est pas mon genre de pêche. Mais par contre, la chasse, comme j'habite en pleine campagne, il y a des bois, il y a quelques lièvres sauvages, des vrais, qu'on n'a pas besoin de mettre. Et je chasse énormément la bécasse surtout. Donc, il y a des bois qui sont près de ce lac. Et un jour, en passant près de ce lac, j'ai vu, effectivement, quelque chose qui surnageait et qui, pour moi, dans mon imaginaire, est tout de suite devenu une espèce de monstre. J'ai cru que c'était quelqu'un qui s'était noyé, même. Parce que ça avait l'apparence totalement de quelqu'un qui flottait.
Oui.
Tellement que même je m'en suis approché, j'ai réussi à le tirer. Et c'est pour ça que dans mon imaginaire, j'en ai fait une espèce de monstre qui hantait ce lac. Voilà, et donc ça après, c'est mon imagination. Ça,
oui.
C'est pas autre chose.
Oui, mais c'est...
Mais qui part d'un fait avéré.
Oui.
Voilà.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment... J'ai dit la Cogne, après la panthère, un monstre dans le lac, c'est pas mal. Marou vous a-t-il adopté, vous et votre famille, comme il dit, et comme il dit d'ailleurs, n'est pas Marou qui veut.
Totalement, oui, c'est un chien très spécial, mais c'est normal, il vit avec des gens très spéciaux, alors on ne peut pas faire autrement. Mais il a beaucoup de caractère, on l'adore, et c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y aura des suites, puisque j'ai déjà écrit un nouveau bouquin qui va parler de lui, et un que je suis en train d'écrire, qui paraîtra, si tout va bien, dans un an à peu près, un an et demi ou deux ans. L'autre paraît maintenant, dans très peu de temps.
Très bien.
Et toujours pareil, le même genre de choses, des bluettes avec des jeux de mots, mais aussi raconté totalement par Marou. Mais
d'accord.
Là, vraiment, vraiment, intégralement. Dans l'autre, je me suis un peu C'est lui qui raconte, mais je me suis un peu égaré sur des choses particulières.
Vous l'avez un peu aidé.
Je l'ai aidé, voilà.
D'accord.
Celui-là, je ne l'ai pas aidé, je n'ai pas eu besoin. Mais entre-temps, je lui ai appris à écrire quand même.
Oui, mais en plus, il a de l'expérience maintenant.
Ah, totalement, il a de l'expérience. Et puis, comme je vous dis, il a une certaine patte et c'est très important d'avoir une certaine patte.
Jean-Claude, on va faire une petite pause musicale. On va se retrouver tout de suite après pour le deuxième livret. Qu'est-ce que vous avez choisi pour agrémenter?
C'est Cocciante, ouais, c'est Marguerite de Cocciante, qui a été un morceau que j'ai plus qu'écouté, qui m'a hanté complètement quand j'étais jeune.
Oui.
Cette voix me plaisait, et ce morceau notamment, qui l'a fait connaître d'ailleurs, Marguerite, a été quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était mon adolescence. Donc, quand on est ado, on est toujours amoureux de quelque chose ou de quelqu'un, et Marguerite faisait partie de mes amours.
D'accord, eh bien on l'écoute.
Ne m'en voulez pas trop. Si ce soir je rentre chez moi, j'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi je lui construirai des rêves pour que plus jamais réveille, elle ne se lève les yeux en pleurs, et pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde, je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier, et pour que je puisse encore la voir, le sourire comme avant, je demanderai au soleil de brûler même en plein hiver. Et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons de notre bohème, je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales. J'irai réveiller les amants, je parlerai des heures entières, et je sais qu'ils me suivront tant que nous resterons amants. Alors on se promènera tous ensemble, on dansera d'incroyables sarabandes, et elle oubliera sa peine. Et pour que la ville danse, et pour que la ville chante, on inventera des couleurs, et elle oubliera ses larmes. Nous irons dans les campagnes pour cueillir les fleurs des champs, pour faire un grand lit blanc où l'on s'aime tendrement. Et puis nous irons au fond du ciel pour lui choisir une étoile, parce que Marguerite est bonne, parce que Marguerite est belle, parce que Marguerite est vraie, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite m'aime. Moi, je ne vis que pour elle. Marguerite est ma raison, mon lendemain, mon idéal. Marguerite qui est le vent, ne sait pas qu'elle peut me faire mal. parce que Marguerite est celle que je veux toujours près de moi. Marguerite et Marguerite, Marguerite est tout pour moi. Marguerite est tout pour moi.
Vous êtes bien dans Page après Page et je suis en compagnie de Jean-Claude Boyer, cet auteur lacognier, en Volvestre, un Pyrénéen dans l'âme, retraité de la fonction publique. Jean-Claude va nous parler de la deuxième chronique aux éditions Sidney-Laurent. Jean-Claude, joueur de rugby de papa, et vous nous contez là les bleuettes rugbystiques. Vous fallait-il laisser des traces de ces moments historiques, parce que c'est quand même des moments historiques que vous avez joué à des très hauts niveaux?
Oui, effectivement. Non seulement il me fallait laisser des traces, mais des traces, j'en ai partout. Je n'ai pas un endroit où je n'ai pas été opéré. Je suis cassé de partout. J'ai des vis, des plaques en ferraille. J'ai eu le nez cassé je ne sais pas combien de fois. Il me manque des os à gauche, à droite. Quand je veux faire du stop, je ne peux pas en faire parce que le pouce, il veut aller que d'un côté, mais pas de l'autre. Ou alors, je peux faire du stop, mais aller toujours du même côté. Bon, et des fois, ce n'est pas très intéressant. Enfin, toujours est-il que le rugby m'a marqué énormément. D'une part, parce que je viens de Montrégeau, qui était un pays de rugby, où j'ai joué tout jeune. Et ensuite, j'ai eu le plaisir, la chance, la joie de jouer au TUC quand j'étais en fac, parce que c'était le TUC qui était le rugby universitaire par excellence.
Oui.
Et au TUC, j'étais très connu. De suite, j'ai été demandé par le Stade Toulousain, j'ai été demandé par le TOEC, qui à l'époque était en national. Et j'ai joué un tout petit peu au Stade Toulousain, mais je me suis fait mal. Et le temps que je me répare, le TOEC m'est tombé dessus à bras raccourcis. Et en fait, j'avais des très bon copain qui déjà jouait au TOEC. Donc, si vous voulez, j'ai choisi le TOEC comme club de national à une époque où il y avait des gens très connus comme Salut, Sester, Jean-Pierre Rive qui est de mon âge, Christian Lanta, bon, qui était avec moi au lycée, même Bellevue. Et donc, à partir de là, à 17-18 ans, je jouais déjà en première division en national.
Mmh. Voilà. Et vous dites que vous avez joué au rugby tout naturellement.
Ah oui, parce que ça faisait partie presque de notre vie quand on habitait à Montrégeau. N'était pas Montrégeolais quelqu'un qui ne jouait pas au rugby, on aurait pu dire pratiquement. Quoi.
Oui.
À Montrégeau, on pouvait faire deux choses, c'est jouer au rugby ou faire partie du groupe folklorique. Bon, le groupe folklorique, c'est quelque chose qui ne m'a jamais très intéressé. Je ne suis pas un grand danseur, le béret sur la tête toute la journée, c'était bien pour mon grand-père, pour moi, ça m'allait moins bien. Donc, si vous voulez, à partir de là, j'ai choisi le rugby parce que j'ai adoré le sport, puisque j'ai fait même, comme je vous dis, une préparation au crêpes, que j'ai commencé le crêpes, et puis je me suis fait mal, j'ai abandonné, je suis parti en philo.
Ah oui. Voilà. Toujours cet humour, même dans le rugby, et il doit y en avoir certainement. Ouais. Pourtant, il y a dû y avoir aussi des moments très difficiles, non?
Ah oui, totalement, puisqu'il y a de nombreuses blessures, comme je vous disais, et ces moments-là ne sont pas des moments toujours très conviviaux. Quand c'est peu de choix, qu'on prend un marron et qu'on a le nez qui saigne, bon, on rigole, parce qu'au bout de 10 minutes, il ne saigne plus. Mais quand on se fait péter un genou, qu'on a la jambe en travers complètement, et qu'à partir de là, on a 6 mois d'hôpital, qu'on a une prothèse à la place et compagnie, vous voyez, donc ça, c'est moins agréable.
Oui.
On en rit après, mais sur le moment, on n'en rit pas trop. On en pleure plutôt.
Eh oui, 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 je vous comprends. Vos souvenirs d'Agen, revoyez-vous ces anciens copains encore ou pas?
Certains, oui, totalement. Là, on s'est perdu malheureusement à cause de ces trois dernières années. Mais sinon, en temps normal, tous les ans, avec les copains de l'époque, vraiment, on faisait un repas. Bon, ça fait 3 ans que ça ne s'est pas fait, qu'on ne fait rien. Donc, c'est vrai que ce sera difficile même à le réorganiser, parce que c'est complexe, puisque certains avaient mon âge, bon, j'ai quand même 70 ans, et d'autres étaient beaucoup plus vieux.
Oui.
Et donc,
il y en a qui ont disparu.
Il y en a qui ont disparu entre-temps. Et il y en a même certains qui ont disparu dans ces 3 dernières années.
Et oui.
Dont je n'ai même pas appris la disparition. Parce que comme on ne pouvait pas y aller quand même, ni rien, on n'avait pas le droit.
Oui.
Donc, c'est malheureux, quoi.
Pourquoi il n'y a pas eu de miracle à Lourdes?
Oula. Ça, c'est plus compliqué. C'est peut-être parce que, si vous voulez, je viens d'une famille qui était relativement religieuse, sauf mon père, qui n'était pas du tout. Mmh. Mais ma mère, très croyante, comme les femmes de l'époque.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs,
tout à fait.
Surtout, les maris étaient moins souvent.
Oui.
Mais malgré tout, j'ai un de mes grands frères qui a été séminariste. On a fait nos études, nos premières études, qui allaient jusqu'à la terminale. Même. Moi, je ne l'ai pas suivi jusqu'à la terminale. J'ai fait terminale, mais pas là, puisque oui. Je suis parti au lycée Bellevue. Mais mes frères, qui ont 7 ans de plus moi, 7 et 14 ans, eux ont fait leurs études intégrantes en face chez moi, au séminaire de Montrégeau. Donc, qui allaient jusqu'à la terminale, jusqu'au bac. Ils ont passé le bac là. Ils sont tous les deux enseignants. Mm-hmm. D'ailleurs, ils ont bien réussi. Il n'y a pas eu de problème. Maintenant, ils sont à la retraite, parce que comme ils sont plus vieux que moi,
oui.
Et que même moi, je suis à la retraite. Mais disons que à partir de là, la vie religieuse faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Parce que les gens qui venaient au magasin acheter, à manger et compagnie, c'était des prêtres,
oui.
C'était des sœurs, parce qu'il y avait un couvent un peu plus loin, et ainsi de suite. Quoi.
Mm-hmm.
Et le séminaire avait un pensionnat, donc il y avait aussi des gens qui mangeaient à la cantine, il y avait une cantine. Donc c'est pareil, les gens qui s'occupaient de la cantine, qui étaient aussi des prêtres, achetaient tout chez mes parents. Donc
oui.
On était vraiment inclus là-dedans. Et surtout quand on venait de la campagne, où malgré tout, la religion à cette époque-là était très implantée.
Oui. Et donc là, pour ce match, il n'y a pas eu de miracle.
Mais non. Voilà. Mais ça, les miracles, y en a quand on veut bien y croire. Mais quand on n'y croit pas, et même si on est persuadé que ça a pu exister, on n'appelle plus ça des miracles, on appelle ça du hasard.
Oui. Enfin, la fine équipe, mais une semaine de sommeil forcé. À quoi pense-t-on quand on se réveille justement de ces sommeils forcés?
Je pense qu'on ne pense pas parce que c'est trop compliqué. On ne s'imagine rien. Parce qu'en plus, sur un sommeil forcé, il n'y a pas de rêve, il n'y a rien.
Oui, et puis c'est après un accident.
Oui, c'est ça, totalement.
Forcément, ça revient en pleine figure ou pas?
Non, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, oui. Ça ne m'est pas revenu en pleine figure.
Oui.
Moi, ça a été comme une parenthèse. Mais pas une parenthèse enchantée, malheureusement.
Oui.
Mais ça a été une parenthèse. Dont je ne me souviens pratiquement pas, puisque comme je vous dis, c'est pas une période où on dort chez soi après avoir fait un bon repas, après avoir regardé une émission à la télé, après être allé au cinéma. Donc on ne rêve de rien, on est vraiment dans une inconscience pure et simple.
Mm-hmm. Après l'épisode de l'équipe Jean-Pierre Rive, c'était vraiment les copains d'abord, comme on avait entendu au début?
Ah oui, totalement. Oui,
oui,
oui, oui. Oui, oui, non, là, on était très, très, très liés. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant, parce que déjà, le rugby est devenu professionnel complètement.
Alors, justement, voilà, c'est ça le rugby de papa. C'était d'abord les copains.
Voilà, totalement.
L'équipe.
Ah oui, c'était l'équipe.
Le village.
C'était le plus important. Le reste n'avait pratiquement aucune importance.
Oui.
Bon, à travers ça, quand on jouait au haut niveau... on n'était pas salarié, mais déjà, parce qu'il n'y avait pas de professionnalisme à cette époque-là, mais déjà, on touchait une petite prime quand on gagnait les matchs, ainsi de suite. C'était déjà très intéressant, parce que ça nous permettait de faire la fête le soir.
Et oui.
Mais on ne faisait pas avec ça, on ne le mettait pas à la banque, hein, n'ayez pas peur. on pouvait nous faire les poches le lendemain matin, il n'y avait plus rien.
Là, il y avait, je vais dire, l'équipe Jean-Pierre Rive.
Oui.
Vous étiez nombreux, et ça, c'était important, de gagner en copain.
Ah oui, totalement. Oui, oui.
C'était ça d'abord.
Oui, d'ailleurs, en fait, on a fait la renommée souvent de certaines personnes telles que Jean-Pierre, et il le sait lui-même,
oui.
Il pourrait vous en parler s'il était avec moi. On a fait sa renommée parce que certains journalistes ou des personnes se sont à tout prix penchés sur lui. Mais moi, j'ai joué avec des gens qui étaient aussi bons que lui, si ce n'est meilleurs.
Oui.
Qui, quand ils ont joué avec moi, étaient même meilleurs que lui, très souvent.
D'accord.
Mais par contre, lui, il a eu la toison d'or.
Oui,
il a eu les cheveux blonds. Donc, à partir de là, c'était une époque où les gens ne se teignaient pas ni rien.
Oui.
Lui, il avait les cheveux hyper blonds et on le voyait partout.
Et
parce
oui.
qu'on voyait cette chevelure à travers tout le reste. Mais on ne s'apercevait pas du commun des mortels, comme on pourrait dire,
mm-hmm.
qui était en train de racler le ballon par terre, dans un tas, dans la boue, la tête plantée dedans et compagnie.
Et oui.
Mais Jean-Pierre, qui arrivait souriant presque, avec sa crinière qui volait partout, on le remarquait.
Oui. Oui, bien sûr, je comprends
ça a été très important, sa carrière, mais
oui.
Même moi, je le sais. Enfin, on en a parlé même avec lui, puisqu'on est très copains, il n'y a pas de problème. Hein.
Oui. Page 21, vous faites un jeu pour les lecteurs. Pourquoi? Est-ce que c'est une respiration, peut-être? Vous avez mis des questions, il fallait deviner.
Oui, c'est une façon de parler de choses.
Ouais.
Et comme si on n'était pas seul, quoi.
Oui.
C'est ce qu'il y a de bien. Parce que quand on écrit un roman, par exemple, on est l'auteur du roman, tandis que quand on écrit comme moi des bluettes, ça peut être quelqu'un d'autre qui raconte.
Oui,
ça
tout
peut
à
être,
fait.
Voilà. C'est pour ça que j'ai adoré aussi faire parler le chien, quoi. Que ce soit le chien qui raconte plutôt
oui.
que moi. Pourquoi moi je raconterais
Oui.
Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'il pense lui, qui sont des choses que auxquelles je n'aurais pas pensé moi.
Oui, oui, voilà. Oui. Je comprends. Les années 1970, c'était le jeu de village, justement, ce rubis de papa.
Oui.
Les cadeaux, vous ne connaissiez pas ? Parce que dans les matchs, vous dites ne pas, justement, vous faire de cadeaux entre copains.
Oui. C'était très dur. C'était... Comment dire, l'arbitrage était relatif, très relatif, et n'était pas méchant, quoi. N'était pas méchant, je ne sais pas comment dire, n'était pas rude, dur.
Oui.
Voilà. Ce qui fait qu'à partir de là, la plupart du temps, les matchs ne se gagnaient pas sur du rugby pur, ils se gagnaient sur simplement le fait d'intimider les autres.
Oui.
De leur faire peur, voilà. Il y a des équipes qui ne faisaient que ça, où ils avaient 5 ou 6 hyper costauds, très méchants, qui ne touchait jamais un ballon d'une partie de rugby, mais par contre, qui touchait beaucoup de nez, beaucoup de pieds sur lesquels il sautait à pieds joints, qui pétait des chevilles et compagnie. Et c'était leur façon de jouer au rugby.
Ah
et,
oui.
Et cela, à cette époque-là, les clubs les recherchaient. Ils en avaient besoin.
Ah
parce
oui.
que c'était très méchant.
D'accord.
Il n'y avait pas de match sans qu'il y ait des bagarres sur
oui.
bagarres. Et si les bagarres, ce n'est pas comme on voit maintenant. On ne se tirait pas les maillots. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein.
Oui.
Tirer les maillots, c'est une bagarre entre maillots. Mais c'est tout.
Y a-t-il eu des matchs plus difficiles, des clubs plus durs à battre et dans ces matchs-là, comment on est
C'est-à-dire qu'il y avait, des matchs qui étaient des matchs qui étaient des véritables derbies. Par exemple, quand je jouais au TOEC et qu'on rencontrait le Stade toulousain, c'était le derby toulousain.
Ah oui.
Donc là, il n'y avait aucun problème. On était les deux clubs phares de l'époque de Toulouse. Donc évidemment, il y avait une espèce d'animosité qui se créait, même si on était très copains la plupart du temps entre nous.
Oui.
Mais le public faisait que ils huaient les uns, ils applaudissaient les autres et vice-versa. Voilà, donc c'était compliqué. Quand on jouait à Montrégio, il y avait quand j'ai entraîné Montrégio et que j'ai même rejoué malgré des tas d'opérations, parce qu'il a fallu que je remette un peu un coup de collier pour leur montrer ce qu'il fallait faire un peu. C'était dans une division plus basse, mais on avait par exemple, on avait Saint-Gaudens. Et Saint-Gaudens-Morgeau, ça a toujours été deux villes qui ne pouvaient pas se voir. Quoi. Entre les deux, il aurait fallu un pont-levis même, qui traverse la Garonne, mais la Garonne longe et ne traverse pas entre les
et
deux,
oui.
malheureusement.
Et, oui.
voilà.
Et donc, c'était ça aussi la valeur finale du rugby.
Ah oui,
d'autres fois,
oui.
puisque maintenant on ne peut plus parler de rugby,
oui.
C'est plus du tout la même chose.
Non, maintenant, en plus on le voit très bien, ils veulent garder cette espèce d'esprit, mais comme ils n'ont pas le droit, ils se tiraillent le maillot, ils s'insultent. Alors tous les matchs que l'on voit, même c'est pénible,
oui.
parce que ça n'a aucun intérêt.
Oui.
Qu'il y en a un qui s'énerve vraiment et qui mette un coup de poing à l'autre ou un coup de tête, c'est presque compréhensible, parce que c'est un jeu dur, c'est un jeu de contact. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on se fait faire mal et on a envie de faire mal aux autres.
Oui.
Voilà. Donc qu'il y ait une certaine rébellion, c'est quelque chose qui est presque compréhensible. Mais par contre, que l'on fasse ce qu'on fait maintenant, ce que j'appelle du cinéma, c'est plus du rugby, c'est vraiment du cinéma.
Oui.
Se tirer les maillots, ils se crachent presque dessus, voilà, c'est ridicule.
Oui, tout à fait, je comprends ce que vous voulez dire. Quand il arrive le temps de raccrocher les crampons,
oui.
est-ce que c'est difficile de prendre la décision ?
La décision, elle est très difficile à prendre, mais le problème, c'est que c'est le physique qui commande, c'est pas la tête. C'est la tête, si on a un coup à la tête.
Oui.
Mais sinon, c'est pas la tête. Bon, moi, j'avais tellement d'opérations et que j'étais très sportif, puisque je vous dis, j'ai fait le crêpe, c'est tout.
Oui.
Que j'ai joué aussi à très haut niveau à la pelote basque. J'étais champion de France à la pelote basque. J'ai joué jusqu'en deuxième série au tennis, dans un très bon niveau. Et tout ça, je l'avais appris en même temps que je joue au rugby en national. Je l'avais appris simplement.
Oui.
Mais à partir de là, quand j'ai vu que le rugby, pour moi, c'était fini parce qu'à 21 ou 22 ans, j'avais trop d'opérations, il fallait que j'arrête. Il y a des gens qui ont continué encore pendant 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Moi, j'ai abandonné. Et comme j'aimais le sport avant tout, j'aimais le rugby, mais j'aimais le sport avant tout. J'ai choisi le rugby parce que ça faisait partie de ma ville, de mon région, où on joue au rugby, il n'y avait pas de foot. Il y aurait eu du foot, peut-être que j'aurais joué au foot, que j'aurais eu un bon niveau au foot. Je savais jouer au foot aussi, puisque comme je vous dis, j'ai fait le crêpe, j'ai fait de tout.
Oui.
Mais disons que le rugby, c'était mon sport de prédilection, parce que c'est le sport que l'on faisait jeune quand on était dans ces campagnes-là.
Oui, oui.
Mais tandis que le reste, il fallait être comme moi, faire des études de sport pour faire de tout, pour
oui.
faire de la pelote basque. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit aussi sur tout ça.
Mm-hmm. Pourtant, vous avez craqué, puisque après vous avez enseigné le rugby.
Oui.
Est-ce que le rugby est une femme ou une drogue?
Non, c'est très loin d'être une femme, ça c'est certain. C'est plutôt le contraire même. Par contre, ça peut être une drogue.
Oui, mais comme on l'aime tellement...
Oui, d'accord, mais on aime une femme parce que c'est une femme. Tandis qu'on n'aime pas le rugby parce que c'est le rugby. On aime le rugby parce qu'on aime ses copains, qu'on aime tout ce qui l'accompagne.
D'accord.
C'est-à-dire l'avant-match, l'après-match, oui. le côté un peu brutal du match.
Oui.
Mais il y a des tas de sports comme ça qu'on adore. Moi, j'ai fait beaucoup de judo aussi et beaucoup de tennis. Et bien, au tennis, pourtant, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Et on était très, très amis avec des gens qu'on rencontrait, qu'on voyait que des fois, une fois par an, quoi, dans un tournoi ou choses comme ça. Parce qu'après le match de tennis ou le match de pelote basque ou n'importe quoi, et bien, on avait gardé cette habitude de rester très convivial, donc de boire un petit verre ou de discuter un moment. On partait rarement fâché.
Mm-hmm.
On en a connu qui faisaient la gueule,
oui.
Comme partout. Quoi. Là, ce n'était
oui.
pas le cas. Enfin, c'était une époque où les gens faisaient du sport pour le plaisir. Donc,
mm-hmm.
à partir de là, gagnant ou perdant, bon, dans le cœur, on a toujours un petit ressenti, c'est évident. Mais après, sur le moment, on dit, oh, putain, qu'est-ce que tu as bien joué, oh, génial, tu m'as filé un peu de là. Bon, c'est ça, quoi.
Oui. Et donc, c'est plus une drogue.
Ah oui, totalement, oui, parce qu'on est drogué par le sport quand on aime ça, quoi, totalement.
Mm-hmm.
Ouais. Moi, j'ai adoré ça, donc j'en ai fait beaucoup, et je voulais en faire ma profession, à part que quand je me suis cassé, j'ai abandonné,
oui.
j'ai continué mes études en philo, bon, ce qui n'a rien à voir, quoi.
Oui, et alors vous parlez du bouquet final à la page 63, est-ce que c'est le dernier match, et peut-on vraiment s'arrêter, ou de temps en temps?
Alors, peut-on s'arrêter? Ça dépend des problèmes physiques.
Oui,
c'est ça le plus
fait.
Important.
Oui.
Si vous voulez, moi, je n'aurais pas eu de problème physique, j'aurais continué longtemps
oui.
encore. Bon, mais quand on est opéré, réopéré et compagnie,
oui.
et que là, on joue vraiment sa vie, quoi, pour ainsi dire, pas sa vie parce qu'on craint la
oui.
mort, mais sa vie de gars qui va aller à la pêche, à la chasse, qui puisse marcher, qui puisse
oui.
faire quelque chose. À partir de là, il y a une réflexion qui se fait et on se dit, bon, ça a été un temps, on s'est régalé, mais maintenant, il faut passer à autre chose.
D'accord.
C'est pour ça qu'ensuite, j'ai fait des sports qui étaient très difficiles aussi, mais qui ont été des sports plus tranquilles au niveau des articulations et ainsi de suite, parce qu'il n'y avait pas de contact. Donc, c'est pas pareil.
Blessure, re-blessure, est-ce que ça vous a coûté cher, ce rubis de papa?
Non, pas du tout. Non, au contraire, ça apprend la vie. Moi, je trouve que c'est normal. Celui qui passe à travers tout et à qui il n'arrive rien, le jour où il a un pépin,
oui.
On dirait que le ciel lui tombe sur la tête.
Oui.
Tandis que quand on a eu des emmerdes, façon de parler,
oui,
hein, entre,
oui.
entre parenthèses, quand on est jeune déjà, parce qu'on a bien voulu participer à des matchs difficiles, faire des choses difficiles, ben à partir de là, quand il nous arrive des petits pépins après, ce n'est
oui.
pas des gros pépins.
Oui.
Parce que pour certains qui n'ont jamais rien fait de leur vie, eh ben, évidemment, dès qu'il leur arrive quelque chose, oh là là, mon bobo, il s'est fait coincer le doigt à la porte.
C'est le rugby qui vous a empêché l'armée ou c'est l'armée qui n'a pas voulu quelqu'un rafistolé?
Ah non, j'ai été réformé parce que je me suis fait mal, justement, parce que quand j'étais à l'armée, si vous voulez, quand je suis parti à l'armée, le TOEC devait me faire rester à Toulouse.
Oui.
Or, le TOEC venait de descendre en deuxième division. Donc, j'ai signé au Stade Toulousain. Le Stade Toulousain m'a pris, il m'a dit, on s'occupe de tout, tu vas aller à Francazal. Effectivement, j'ai reçu mon ordre de mission, je me suis retrouvé à Bègle, à Bordeaux. Voilà, exactement, à Bordeaux, la caserne est à Bordeaux. Quand j'ai été là-bas, j'ai appelé le Stade Toulousain, j'aurais dit, attendez, mais je croyais que j'avais signé chez vous pour rester à Toulouse, on va s'en occuper, ça va arriver tout. Entre-temps, est arrivé quelqu'un qui s'appelait Bambi Moga, qui était qui a été président de la Fédération Française de Rugby, qui était un ancien joueur de Bègle, qui était le patron de Bègle, le président, que je ne connaissais pas, mais que je connaissais de réputation et même de look, qui est venu me voir directement à la caserne et qui me dit, Coco Boyer, c'est toi? Alors j'ai dit, oui, c'est moi. Il me dit, voilà, ben, tu es là parce que c'est moi qui ai demandé à ce que tu sois là. Ben, je dis, ouais, c'est sympa, moi j'habite à Toulouse, j'aurais préféré être à Toulouse. Il me dit, mais non, c'est parce que je veux que tu joues à Bègle. Voilà. Et donc j'ai signé avec lui. Carrément, comme ça, il est arrivé, il est venu me dire, voilà pourquoi tu fais ton armée à Bordeaux. Et donc, j'ai signé à Bègle et manque de bol. Évidemment, ce genou, je m'étais fait mal. Et bien, dans le deuxième ou troisième match que j'ai fait avec Bègle, je me suis répété le genou. Donc, si vous voulez, je suis parti de Bègle à l'hôpital à Bègle. Je suis resté déjà un mois à l'hôpital à Bègle parce qu'ils m'ont rien fait. Ils ont attendu. De là, comme j'avais quand même pas mal de gens que je connaissais, ainsi de suite, j'ai téléphoné à Toulouse, j'ai eu des gens en compagnie. Eux, ils m'ont fait venir à l'arrêt, à oui. l'hôpital d'arrêt à Toulouse. Oui. Voilà. Et j'ai été opéré à l'hôpital d'arrêt à Toulouse. Et ce qui fait que j'ai été réformé après ça. Puisque, en plus, mon opération a duré... j'ai eu déjà 2 mois avant d'arriver à l'hôpital d'arrêt. Ensuite, j'ai 1 mois à l'hôpital à passer. 1 mois après, j'ai été réformé. Et ensuite, j'ai eu une rééducation qui a duré presque un an. Quoi.
Et, donc, oui. Voilà. Et oui, bien sûr. Oui,
et quand j'ai repris le rugby un peu, juste pour terminer sur le rugby, c'est là que je suis revenu dans mon village natal à Montrégeau, mais en tant qu'entraîneur, normalement.
Et oui.
Mais en tant qu'entraîneur, comme j'avais été réparé, j'ai fait quelques matchs. Bon, mais quelques
oui.
matchs.
Justement, c'est on chasse le naturel et il revient au galop.
Totalement. Voilà. Bon, et même oui. si le galop n'était pas terrible, hein, c'était plutôt du petit trot. Mais
bon. Génial. Vous avez dit aussi avoir fait une courte carrière d'entraîneur.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'elle a été grande toutefois? Et est-ce que vous avez pu former justement à ce rugby de papa?
Totalement. Elle a été très intéressante parce que Montrégeau était descendu en honneur
oui.
et je les ai fait remonter en 3e division, mm-hmm. qui était pour eux le niveau qu'il leur fallait. Oui. Donc ils ont été très contents de ça et ils voulaient à tout prix me garder. Bon, mais moi, là, je commençais à être saturé, à en avoir assez, et donc j'ai abandonné.
Oui.
Voilà. Donc c'est pour ça que non seulement ça a été intéressant pour moi parce que j'ai fini presque en apothéose, on
oui.
pourrait dire. Hein, voilà.
Oui.
Mais en plus, j'ai été... pas adulé, ni aimé, mais je ne sais pas comment on peut dire, mais par les gens de mon village, de Montrégeau,
oui.
Qui me connaissaient tous, de
oui.
partout. Quand ils ont vu que je venais entraîner et que j'ai même rejoué alors que je venais d'être opéré, parce que des matchs les plus durs, de temps en temps, quand je voyais que ça n'allait pas, j'allais remettre, comme on dit, un coup de collier. Qui en fait, on donne plutôt des coups de tête que des coups de collier, hein, au rugby.
Oui. Fin d'une histoire, peut-être. Comment on se retrouve à une fin de carrière rugbystique parce que je suppose que vous avez dû préférer jouer que d'enseigner peut-être, je ne sais pas, ou les deux.
C'est-à-dire qu'on est, c'est par obligation. Quand on
commence oui.
à être abîmé, on ne peut pas faire autrement.
Oui.
Donc moi, j'ai bien aimé être entraîneur aussi, ça m'a plu, mais ce n'était pas une vocation. Donc c'est pour ça que quand j'ai plus pu jouer du tout, bon, j'ai dit, l'entraînement du rugby, ça ne m'intéresse pas. J'ai,
oui.
j'ai des copains qui ont continué pendant des années, qui sont devenus entraîneurs, ils avaient 60 ans, ils entraînaient toujours des clubs de...
Oui.
Mais moi, comme j'aimais tout le sport, je n'aimais pas que le rugby, je préférais prendre du temps pour
goûter
aller jouer
à autre
au tennis,
chose, oui.
jouer à la pelote basque,
oui.
et ainsi de suite, hein. mm-hmm. faire du judo, et tout ce que...
Et ça a été vraiment la fin d'une histoire.
Ah, avec le rugby, oui, totalement, voilà. Oui.
D'accord. Ben merci beaucoup Jean-Claude Boyer, vous nous avez présenté donc deux de vos livrets et il y en a beaucoup, vous nous l'avez dit. Pourtant, c'est deux pans de votre vie et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez mis le point final à chaque livret?
Non, pas du tout, c'est plutôt le contraire. Moi, pour moi, ça n'a pas été un point final, ça a été justement une continuité. Et qui ne finira jamais, puisque justement, l'écrit reste, comme on dit, et
oui.
les paroles s'envolent. À partir de là, ces écrits-là, je les ai faits pour mon plaisir.
Oui.
Et puis maintenant, ils existent pour mes enfants, ils existent pour des gens qui m'ont connu, pour des gens qui ne m'ont pas connu non plus, mais qui ont connu d'autres personnes qui sont notées dedans.
Oui.
Et donc, c'est le côté le plus intéressant. Pour des gens qui aiment tout simplement la chasse, il y a Billebaud.
Oui.
Pour ceux qui aiment la pêche, il y a Bienvenue chez les pêcheurs pyrénéens. Et on peut se reconnaître dedans, ou ne pas se reconnaître, mais aimer les histoires. Et après, l'intérêt que j'y apporte, moi, j'ai l'impression, c'est que je prends tout à la dérision. Je le fais d'un côté humoristique.
Oui, c'est vrai.
Si je devais faire un livre hyper sérieux, ça ne m'intéresserait pas du tout.
Oui.
Raconter une histoire en disant, j'ai attrapé 3 poissons, c'était bien, ils étaient beaux, ils étaient gros. On s'en fout, quoi.
Ben, oui.
Moi, je m'en fous. Et je pense que la plupart des gens s'en foutent. Il y en a, oui, qui aiment ça. J'allais dire, malheureusement.
Oui.
Heureusement pour eux, malheureusement pour les autres.
Oui.
Parce qu'il vaut mieux prendre la vie d'une autre façon, j'ai l'impression.
Tout à fait.
Donc c'est pour ça que je vous dis que ces bouquins-là, c'est un peu de moi qui restera.
Oui.
Et qui déjà, pour moi, fait partie de moi.
Est-ce que ce ce trait de caractère que vous avez de toujours avoir de l'humour, est-ce que vous le devez au rugby ?
Ça peut y contribuer, je pense, parce qu'on a bien plaisanté au rugby.
Oui.
Mais j'ai connu des gens au rugby qui étaient très sérieux et même triants. Hein. vous affolez pas. Il y en avait, il y avait le fond du quart et le devant. Hein. C'était pas la même chose. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas une caractéristique propre au rugby. J'ai joué au foot à Boulogne-sur-Gers. Mon père avait joué quand il était jeune. J'ai joué une année aussi au foot à Boulogne. Parce que bon, c'est une année justement après le rugby c'était trop dur pour moi. J'ai dit, comme j'aime bien tous les sports, comme j'ai fait le crêpe,
oui.
j'ai fait de tout. Donc j'ai même joué une année au foot, mais c'est pareil quoi. Il y avait quelques mecs qui étaient sympas avec lesquels on rigolait, puis il y en avait d'autres qui se prenaient au sérieux, d'autres, bon,
oui.
C'est ce côté-là quoi. Et le rugby, j'ai connu des gens aussi qui étaient pénibles quoi, parce mm-hmm. qu'il n'y avait que le match qui comptait, alors que nous c'était un tout. C'était la rencontre du matin, c'était le repas du midi où on rigolait, alors que certains fermaient les yeux, se concentraient comme des fous. Et après, nous, on était concentrés quand on était sur le terrain.
Oui,
et une
oui.
fois que c'était fait, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, eh ben, c'était le moment où on arrosait la victoire
ou la défaite.
Ou on noyait la défaite. Voilà.
Les dessins et les photos que vous avez insérés, c'est de vous ou pas ?
La plupart, oui, oui. Les photos, normalement, c'est pratiquement tout de moi.
Oui.
Et après, il y a quelques dessins qui sont des dessins libres que j'ai pris. Attendez, dans cela, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais je crois pas. Là, vous parlez que de...
Je parle des deux. Je parle de Marou et du rubis de papa.
Alors là, je pense que c'est tout pratiquement de moi.
D'accord.
Pratiquement. Parce que dans les autres, ensuite, j'ai trouvé, vous savez, des choses qu'on peut trouver sur Internet, des petits dessins humoristiques qu'on a le droit de recopier.
Mm-hmm. Voilà.
Parce que certains, on n'a pas le droit. De suite, ça s'affichait.
Oui, tout voilà. à fait.
Donc,
où est-ce qu'on peut trouver vos livres, justement, vos livrets ?
Alors, mes livres sont en vente ici, dans la région, chez Bruno, qui est le libraire qu'il y a à l'ESAT,
oui.
qui vend la dépêche, qui est oui. en face là, là, juste, bon, lui. On les trouve à Carrefour
oui.
aussi. Donc là, c'est les deux points essentiels de, oui. de la région. Et ensuite, c'est mon éditeur qui les délivre.
Ou bien auprès de vous.
Ou on peut m'appeler à moi, il n'y a
voilà.
aucun problème.
Tout à fait. Que vous ont dit, justement, les lecteurs qui l'ont lu et si plus ou moins ils sont concernés, évidemment.
Ceux qui sont concernés sont très très contents.
Oui.
Et ceux qui ne sont pas concernés sont encore plus contents.
Ah ben alors c'est bien. Voilà.
Non, comme je vous dis, à part des gens vraiment qui sont fermés complètement,
oui.
Je ne raconte pas une histoire pour raconter une histoire bête et méchante.
Tout à fait.
C'est tout, même si des fois c'est difficile et dur et compliqué, la chasse, on tue des animaux, malgré tout, la pêche, on attrape du poisson. Quand on attrape un poisson, on tue un poisson aussi.
Oui.
Mais il y a façon de le faire et façon de le faire.
Tout
et surtout
fait.
Façon de le raconter. Et voilà.
Exactement, c'est vrai. Donc j'espère qu'on vous reverra pour nous présenter les autres livre, puisqu'il y en a un qui va sortir incessamment sous
oui.
peu. Jean-Claude, merci de m'avoir confié ces lectures très humoristiques. Je tiens à le dire parce que c'est passionnant de lire Marou. Et franchement, vous l'avez... Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez éduqué ? Est-ce que c'est lui qui s'est éduqué près de vous ? Ça va être peut-être le grand mystère.
C'est pas un mystère, c'est lui qui m'éduque.
Ah, voilà.
C'est normal, c'est lui qui écrit.
Et oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont des lectures grandes, elles sont sobres, quoique, vous connaissant.
Oui, bien sûr.
Mais un très grand plaisir de lire vos écrits, ça c'est certain. L'amour pour un village, ça c'est très important, c'est quelque chose qui devient rare, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la
c'est
moutarde.
Vrai.
Et celui d'une famille sportive, ça c'est important. Ça aussi, peut-être, ça va avoir tendance à se...
Se perdre, oui, totalement.
Avec, on lit avec grand plaisir et on rit, vraiment. Merci pour ces belles lectures, très récréatives, philosophiques, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour que ce soit bien dans toutes les lectures. On va devoir se quitter.
D'ailleurs juste une
oui.
parenthèse. D'ailleurs, je n'ai pas terminé ma licence de philo. J'ai eu que le doc, puisque ensuite, j'ai abandonné la fac en troisième année parce que j'ai passé un concours administratif et donc je suis rentré à la ville de Toulouse
voilà,
sur concours.
D'accord.
Mais j'étais parti pour en parlant de philosophie, justement. C'est pour ça que ça reflète un peu aussi ce côté philosophique
oui.
de la vie, qu'il faut prendre comme il faut l'apprendre et qu'on ne peut pas faire presque autrement que l'apprendre comme ça. Quoi.
Mm-hmm.
Pourquoi aller contre ?
Très bien. Alors justement, vous nous avez choisi Jacques Brel, Ne me quitte pas. Pourquoi ? Et je vous laisse le mot de la fin.
Parce que j'ai pas envie de vous quitter.
Ah, c'est gentil. C'est gentil. Mais on se reverra.
Eh bien, avec plaisir.
Mais merci beaucoup, Jean-Claude, et à bientôt.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.